7h42, bonjour Olivier Dard, vous êtes historien, professeur d'histoire contemporaine à Sorbonne Université et spécialiste d'histoire politique du XXe siècle. Vous publiez avec deux autres confrères un dictionnaire des populismes aux éditions du CERF, un dictionnaire que je qualifierais de compréhensif au sens de Max Weber, au sens du sociologue. Max Weber, autrement dit, vous essayez de voir quelles sont les logiques des acteurs qui poursuivent ces partis, ces idéologies populistes. Elles sont plurielles, puisqu'elles sont aussi bien à gauche qu'à droite. Et vous essayez de ne pas les abandonner à la déraison, à la pathologie, bref, à un certain nombre de maladies de la démocratie. Bref, d'en saisir ce qu'il y a de plus original et de plus singulier. Un mouvement comme celui de la Catalogne, que l'on vient d'évoquer avec mon camarade Camille Magnard, un mouvement d'indépendance, est-ce que ça, justement, ça peut être considéré comme un mouvement populiste?
À mon avis, pas forcément, parce que si vous voulez, l'affaire catalane est une affaire extrêmement ancienne. Je ne vais pas revenir évidemment au XVIIe siècle espagnol, mais dans la composante catalane, il y a bien d'autres éléments qu'un ressort populiste. En revanche, ce qu'il est peut-être important de noter, c'est que dans le cas espagnol, un mouvement comme Vox, qui est considéré, alors on pourrait en discuter, mais comme une sorte de mouvement populiste à l'échelle espagnole, va puiser dans la dénonciation de l'irrédentisme catalan, si vous voulez, de quoi nourrir son discours sur l'idée d'une Espagne unitaire, en reprochant aux autres forces politiques d'avoir été, disons, un peu légère sur le sujet. Donc je crois qu'effectivement, il y a à creuser dans cette histoire, parce que on peut considérer que la Catalogne, effectivement, structure le jeu politique espagnol.
C'est ça. Mais en tout cas, ce qu'il y a dans le cas catalan et plus généralement dans les différents mouvements populistes, c'est l'entrée revendication identitaire qui là est fondamentale, selon vous, dans les mouvements populistes.
Olivier. Alors simplement, si vous voulez, pour être clair, le nationalisme catalan n'a pas attendu qu'on parle du populisme pour exister, premièrement. Deuxièmement, il est extrêmement varié, puisque la force du catalanisme aujourd'hui, c'est une alliance un peu improbable, et d'ailleurs on voit bien que bon, ça n'a pas forcément réussi à déboucher sur grand-chose, entre un certain nombre d'éléments libéraux catalans et toute une série de forces de gauche catalanes qui ont mis en avant la question nationale pour dénoncer justement l'État espagnol. Donc on est, si vous voulez, dans l'héritage d'une question nationale qui, à mon avis, précède malgré tout de beaucoup la vague populiste. Je ne suis pas sûr que ça ait un rapport direct, mais il faudrait peut-être interroger des spécialistes de la Catalogne sur le sujet pour voir ce qu'ils en pensent.
Alors, c'est un travail extrêmement impressionnant que celui que vous avez fourni. Est-ce que du coup, ça n'est pas en retard de phase? Est-ce que vous n'avez pas l'impression que cette grande vague populiste, elle n'est pas justement en train de décliner? Si je prends l'actualité récente, par exemple, les municipales en Hongrie ont vu un revers électoral pour Viktor Orban, Olivier Dard.
Oui, non, mais si vous voulez, l'idée d'ailleurs n'était pas de prévoir ou non une vague populiste, et je dirais même que ce qui a été intéressant, plus encore, ce sont les élections européennes, où on annonçait une véritable vague populiste partout, dont on a pu constater que ses effets étaient relativement limités. Alors doublement limités, je dirais, d'une part parce que, d'abord, la poussée attendue n'a pas forcément eu lieu partout, et deuxième élément, plus important encore, me semble-t-il, c'est la difficulté, pour ne pas dire l'impossibilité, de ces forces populistes en Europe, ou ces forces dites populistes en Europe, à parvenir à parler d'une seule voix. C'est-à-dire, au fond, à être en mesure d'élaborer un programme de gouvernement commun. Et je dirais que c'est évidemment toute la différence et toute l'opposition avec leurs adversaires, qui, quelle que soit leur divergence, réussissent à créer, à l'image de la France, une sorte d'arc politique. On le voit aussi à l'échelle du Parlement européen, même s'il y a eu l'affaire de Madame Goulard, mais il y a quand même un arc politique, alors que l'opposition dite populiste, elle, au fond, s'avère incapable de s'entendre, ce qui d'ailleurs peut parfaitement s'expliquer, puisque d'une part, un certain nombre de partis dits populistes aujourd'hui ont des histoires déjà anciennes et très inscrite dans leur terreau national, premièrement, et deuxièmement, quand on regarde d'un peu près les programmes de ces partis, si on va des vrais Finlandais à la Lega, en passant par le FPO en Autriche, on constate que, bon, il y a un point commun, sans doute, c'est la question des migrants, ça je crois que c'est tout à fait essentiel, la question des migrants, la question de l'islam, et sans doute peut-être le plus petit dénominateur commun, mais un dénominateur commun, mais par le reste, ne serait-ce qu'en matière économique et sociale, la relation libéralisme économique n'est absolument pas la même d'un mouvement à l'autre. Et évidemment, ça pose un problème pour structurer un projet d'ensemble.
Alors, ces questions-là, en tout cas, elles doivent être prédominantes pour le populisme de droite, parce qu'il existe aussi un populisme de gauche, on y reviendra en votre compagnie, Olivier Dard. Pour le cas de la Hongrie, ce qui est intéressant, c'est donc la défaite de Viktor Orban. Donc ça, c'est une chose. Ça veut dire que finalement, cet homme que l'on présentait comme étant véritablement en phase avec son pays ne l'est pas tant que ça. Et puis, à l'intérieur de ce revers, il y a la transformation du Jobbik. C'est un parti d'extrême droite au passé très nettement antisémite. Et alors lui, il est en train de muter. Il y a une entrée Jobbik dans votre dictionnaire des populismes. Il est en train de muter, c'est-à-dire que l'antisémitisme est aujourd'hui relégué au second plan. Et puis, ils se sont abstenus de présenter un candidat avec un logo, c'est-à-dire que ils sont en train de mettre de l'eau dans leur vin. Est-ce que, justement, là, il n'y a pas aussi un signe d'une mutation du populisme ?
Écoutez, je vous dirai un peu ce qu'on va dire peut-être dans quelques mois en France à propos des élections municipales. Ne surinterprétons pas forcément les résultats. Hein, ce n'est pas une élection nationale, ce sont des élections municipales. Ce qui pose d'ailleurs un problème, parce qu'évidemment dans le cas d'Orban, le rapport d'Orban au corps électoral de l'instant où il y a un scrutin national est de nature évidemment différente. Mais, cela étant, ce que vous dites montre en même temps quelque chose de fort instructif, c'est qu'on a effectivement, à l'intérieur de ces pays, en Hongrie en particulier, une société civile et politique qui bouge. Hein. C'est tout à fait évident, avec un jeu de recomposition constant qu'on a eu aussi en Autriche, entre les conservateurs de Kurz, le FPO, on a effectivement un glissement électoral tout à fait intéressant. Maintenant, pour ce qui est de la mutation de Jobbik, on verra, comme vous le dites, il y a quand même un héritage assez lourd.
Un héritage assez lourd avec la question de l'antisémitisme. Alors, je ne veux pas divulgâcher l'échange qu'on va avoir, donc je ne vais pas donner tout de suite de définition du populisme. Je crois que votre dictionnaire en contient une, en tout cas en creux. On va en parler tout à l'heure. Mais en tout cas, la question de l'antisémitisme, elle est singulière, elle est importante. Elle est importante en Hongrie, puisque Viktor Orban a fait une bonne partie de sa campagne contre un homme, contre Soros, qu'il a présenté comme étant la cause de tous les problèmes de son pays, le financier de toutes les mauvaises entreprises contre la Hongrie, qui se trouve être bien évidemment juif, et auquel il a permis d'endosser tous les stéréotypes anti-juifs possibles et imaginables. Est-ce que ça, justement, ce n'est pas un signe, le fait que le Jobbik mette un peu en sourdine son antisémitisme ?
Peut-être. Ce qui me paraît encore plus révélateur dans le cas d'Orban, c'est que Soros effectivement est attaqué pour effectivement ses origines, mais les critiques d'Orban en réalité renvoient aussi à des critiques beaucoup plus larges qu'on retrouve en Europe occidentale contre effectivement l'idée d'une technocratie envahissante, d'une domination par un certain nombre de groupes dits occultes du type groupe de Bilderberg, etc. Dans mon entrée technocratie, je suis revenu assez en détail sur ce que l'on connaît bien à l'échelle française.
Qu'est-ce que c'est le groupe de Bilderberg?
Le groupe de Bilderberg, c'est une vieille histoire. Le groupe de Bilderberg date des années 50. C'est un groupe qui s'était organisé aux Pays-Bas et qui réunissait toute une série de dirigeants et de ministres de l'économie. C'était quelque chose qui précédait Davos, disons pour faire simple. Et un des principes du groupe de Bilderberg, c'est qu'il ne devait sortir aucun procès-verbal des réunions. D'où, effectivement, dès les années 50, et en France, on a le vieux polémiste d'extrême droite, Henri Coston, qui avait beaucoup écrit sur le groupe de
Bilderberg. Extrême droite, ah, c'est-à-dire ouvertement antisémite.
Ah bah ça, oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, qui avait beaucoup écrit sur, effectivement, ce groupe de Bilderberg, avec cette idée que ce groupe de Bilderberg aurait, au fond, incarné mythologie politique bien connue des années d'occupation qui était le mouvement synarchique d'Empire. Donc de la synarchie, on passe au groupe de Bilderberg, on passe à Davos, avec cette idée qu'effectivement, les financiers dirigent. Et évidemment, dès qu'on va parler de la finance, on ne va pas évidemment être très loin des juifs, bien sûr.
Et puisque vous parlez du groupe de Bilderberg, et on pourrait étendre ça à d'autres partis qualifiés à tort ou à raison, vous allez nous le dire, de populistes, il y a la notion de complotisme, et ça fonctionne aussi bien pour, par exemple, le Venezuela, puisqu'il y a une entrée Hugo Chavez, que pour la question donc hongroise avec Viktor Orban. L'article complotiste est d'ailleurs particulièrement intéressant. Il est signé par Pierre-André Taguieff. Il y a effectivement là un point commun entre tous ces mouvements, Olivier Dard.
Oui, mais en même temps, le complotisme n'est malheureusement pas l'apanage des populistes. Mais effectivement, il y a, si vous voulez, dans ce rapport à la dénonciation du pouvoir, l'idée que finalement le culte dominerait et que les citoyens seraient dépassés non seulement par quelque chose qui au fond leur échapperait, mais qu'on voudrait très volontairement leur cacher. D'où effectivement cette très vieille idée hein, de une main cachée dirige, hein, c'est un titre de brochure bien connu, et de l'hydre ou de la pieuvre qui serait effectivement en mesure de prendre les pouvoirs en main. Et j'ajouterais, et c'est peut-être un des éléments sur lesquels, au fond, les populistes peuvent jouer, parce que, évidemment, ils peuvent rencontrer, de ce point de vue, une certaine compréhension de l'opinion, c'est le fait que les gouvernants aujourd'hui peuvent donner ou donnent, à tort ou à raison, le sentiment, au fond, de ne plus être en mesure de véritablement diriger les pays dont ils ont la charge. Et que finalement, le pouvoir leur échappe et qu'il y a un écart absolument important entre ce qu'ils prétendent faire, en termes de campagne électorale, et ce qu'ils peuvent faire lorsqu'ils sont au pouvoir. De ce point de vue, je crois que là, il y a quelque chose d'extrêmement important. Ce discours, effectivement, est une espèce d'assurance, si vous voulez, pour expliquer, au fond, un certain nombre de ratés, d'erreurs, d'insuffisances.
J'ai cité le cas d'Hugo Chavez. Ce qui est intéressant, c'est que on voit que le populisme en Europe réussit électoralement dans certains lieux. La Pologne, là, le PiS vient d'emporter une victoire, même si celle-ci est un peu inférieure à ce qu'ils escomptaient. Des échecs, on a parlé de la Hongrie. En revanche, en Amérique latine, là, il y a un vrai terreau pour le populisme, Olivier Dard.
Ah oui, non mais c'est-à-dire qu'en réalité, si vous voulez, si on dresse une histoire du populisme contemporain, hein, 19e, 20e siècle, et disons 20e siècle pour faire simple, l'Amérique latine est sans doute un berceau, si ce n'est le berceau du populisme. Pourquoi ? Parce que, d'une part, en Amérique latine, le populisme, ça n'a pas été seulement des mouvements. Ça a été aussi des régimes, et des régimes installés dans la durée. Le régime du général Perón, avec son épouse Eva, Evita. Ce qui est d'ailleurs intéressant, parce que le populisme ne se conjugue pas seulement au masculin, mais aussi au féminin. Et le rôle d'Eva Perón est tout à fait fascinant, avant Isabelle, sa deuxième épouse. Et bien sûr...
Pourquoi était-il si important ?
Si important, parce que si vous voulez, en Argentine, quand Perón arrive aux affaires, après la Seconde Guerre mondiale, va se mettre en place, si vous voulez, une espèce de duopole assez intéressant entre effectivement le général qui est le titulaire du pouvoir et son épouse Eva qui va être au fond la voix, le symbole, la représentation de ceux auxquels elle s'adresse, c'est-à-dire les descaminados, ceux qui théoriquement n'ont pas de chemise, c'est-à-dire qui ne portent pas de veston. Et le péronisme fonctionne en Argentine, pourquoi ? Parce que le populisme en Argentine, mais aussi en Amérique latine, je crois que c'est très important à comprendre, est une étape essentielle de l'intégration des masses dans la société, dans les sociétés argentines ou brésiliennes. Et de ce point de vue, Eva Perón est tout à fait fascinante parce que elle a, si vous voulez, avant la lettre, un port de tête, un style oratoire, etc., une culture de l'image bien avant les médias d'aujourd'hui que nous connaissons. Mais il y a un travail extrêmement intéressant et de ce point de vue, évidemment, les masses vont adhérer au péronisme.
Et alors, qu'est-ce qu'il y a justement, par exemple, dans l'Argentine d'aujourd'hui, qui relève du populisme, Olivier Dard ?
Il y a un héritage péroniste. Et alors, qui évidemment n'est plus celui de Perón, mais Madame Kirchner, est une héritière du péronisme. Et si vous regardez ce qui s'est passé il y a quelques semaines en Argentine, dans cette espèce de préélection qui a balayé Macri, donc le président, enfin le dirigeant libéral, on assiste à un retour d'une forme de péronisme, enfin, d'un candidat péroniste. Alors évidemment, le péronisme en Argentine, et c'est toute la plasticité du populisme, a occupé une telle place dans l'arc politique. Vous avez en Argentine des péronistes de droite, de gauche, vous en avez de multiples sortes, sauf que ils ont malgré tout, historiquement, un certain nombre de points communs, à commencer par, d'une part, un refus malgré tout affiché du néolibéralisme, et donc il y a un travail et un souci de protection, hein, toujours dans le discours péroniste, protection des faibles, encadrement de l'État, etc. Et ça, c'est tout à fait essentiel. Et deuxième élément important, évidemment, c'est la recherche d'un dirigeant fort, homme ou femme d'ailleurs.
Mais alors, justement, est-ce que la situation actuelle de l'Argentine n'est pas tout simplement la conséquence d'une politique économique scabreuse et aujourd'hui d'une situation extrêmement périlleuse pour les finances argentines, avec finalement le retour à quasiment une situation de faillite, ce qui a été le cas de l'Argentine il y a quelques années et qui aujourd'hui est un risque important. Est-ce que le populisme, ça n'est pas le refus des réalités économiques? Je parle du cas argentin, là, Olivier Dard.
Alors, ça se double dans le cas argentin, si vous voulez. Alors, après, c'est une question de point de vue, hein, bien sûr. Mais oui, d'un certain point de vue, je vois bien ce que vous voulez dire par rapport effectivement à un ordre néolibéral. Sauf que dans le cas argentin, et c'est ce qui va faire la force du discours péroniste sur le plan électoral, le discours s'est construit aussi contre, évidemment, ou dans le cadre d'un certain anti-américanisme, j'entends anti-américanisme états-unien.
Et donc, c'est là où justement c'est compliqué, parce que juste à côté, le Brésil, qui est un très bon exemple de pays populiste, avec Jair Bolsonaro, le pays... Je ne sais pas s'il est populiste, mais le gouvernement, lui, l'est. Là, au contraire, on n'a pas du tout affaire à un anti-américanisme, au contraire.
Et justement, moi, je ne suis pas sûr que Bolsonaro, justement, soit un populiste. Et je vais vous dire pourquoi.
Là, il va falloir que vous m'expliquiez pourquoi.
Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que qu'il ait un style populiste, assurément. Mais le populisme au Brésil, on a Perón en Argentine, le grand dirigeant populiste au Brésil, c'est Getúlio Vargas, dans les années 50.
Oui. Beaucoup d'avenues absolument. Qui portent
et
son nom.
Le programme, si vous voulez, de Bolsonaro, cette espèce de néolibéralisme que porte Bolsonaro, est aux antithèses. À l'antithèse.
Quelle est la différence entre Vargas et Bolsonaro, le dirigeant historique?
Ah ben le programme économique, évidemment, n'a pas grand-chose à voir. Et alors, on pourra reparler du style Bolsonaro, parce que Bolsonaro cultive un certain style personnel qui peut faire penser au populisme.
On en reparle dans quelques instants, Olivier Dard, et puis on donnera aussi une définition, en tout cas en creux, du populisme, parce que cela fait partie des choses extrêmement intéressantes que recèle ce dictionnaire que vous co-signez avec Christophe Boutin et Frédéric Rouvillois, le dictionnaire des populismes au CERF. Il est 8h sur France Culture, excellent réveil à tous.
7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Et nous retrouvons notre invité, l'historien Olivier Dard. Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à Sorbonne Université. Vous publiez une somme, un dictionnaire des populismes au CERF. Alors, il est dirigé par vous-même et par Christophe Boutin et Frédéric Rouvillois. Et puis, on trouve énormément de contributeurs, dont Pierre-André Taguieff, dont j'ai cité une notice tout à l'heure, Stéphane Courtois, bref, un aéropage de spécialistes qui se sont penchés sur ce phénomène. Le lien avec ce que l'on vient de dire, parce qu'il y a une entrée identité, et on voit bien que là aussi, les populismes ont toujours des liens avec une certaine manière de penser ce que Benedict Anderson, autrement dit un politiste, appelait une communauté imaginée.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a, alors, communauté imaginée...
C'est moi qui appelle ça ainsi, vous n'êtes pas forcément d'accord.
Non, mais c'est ce que dit Benedict Anderson, que j'ai lu, bien entendu. Alors, tout à fait d'accord, sachant qu'effectivement, le populisme, on ne l'a pas encore dit depuis le début de notre entretien, pose évidemment la question de la définition du peuple. Et le rapport au peuple des populistes, dans leur diversité, n'est pas forcément le même. Et au fond, on peut dégager trois catégories, pour faire simple. Le peuple comme ethnos, le peuple comme démos, et le peuple comme plebs. Et il est évident...
Alors, là, il va falloir traduire ces trois catégories.
Alors, si vous voulez, le peuple comme ethnos, c'est effectivement ce qui nous rapproche, effectivement, de la question identitaire, c'est-à-dire, au fond, le peuple comme communauté organique, communauté nationale.
Homogène.
Voilà, avec, effectivement, on parlait dans la première partie de l'émission du cas Orban, et notre collègue Mathé Botos insiste bien sur le fait que la conception d'Orban est une conception, effectivement, ethno-populiste.
Mm-hmm. C'est ce que Orban dit, en Hongrie, c'est comme ça, et c'est pourquoi on refuse des migrants.
Absolument. Au nom d'un héritage et de la volonté de se préserver. Parce qu'il y a effectivement dans cette dimension identitaire une volonté de rester soi-même et un regard porté sur l'Europe occidentale qui est un regard particulièrement négatif. Deuxième acception, si vous voulez, du mot peuple, c'est effectivement le démos tel que nous l'entendons à travers la question du suffrage en particulier. Ce peuple qui vote, qui est réuni, c'est l'image effectivement de la démocratie athénienne. Et puis il y a une troisième dimension qui est la plebs, c'est-à-dire ce qu'à Rome renvoyait à, au fond, la population pauvre, disons, les pauvres contre les riches, les petits contre les gros. Alors effectivement, la diversité de ce populisme, on parlait tout à l'heure, populisme de droite, populisme de gauche, c'est une espèce d'agrégat entre tout cela.
Mais alors, qu'est-ce qui peut distinguer justement le populisme de droite et celui de gauche, sachant, puisqu'on parlait de l'Amérique latine, alors c'est un lieu assez riche en populisme, à la fois de gauche et de droite. On citait Bolsonaro, moi, je le classais parmi les populistes, vous n'étiez pas d'accord. Et puis, il y a les populismes de gauche, Nicolas Maduro, si vous considérez que le président du Venezuela est un populiste, Olivier Dard.
Alors, je reviens un instant sur Bolsonaro. Pourquoi est-ce que je ne le considère pas comme un populiste? C'est parce que je considère, si vous voulez, qu'effectivement, Bolsonaro a bien toute une série d'attributs qu'on pourrait rattacher au populisme, à travers son style, effectivement. Mais dans l'histoire brésilienne, si vous voulez, Bolsonaro est beaucoup plus l'héritage de la dictature militaire de 1964 qui ne l'est du populisme historique brésilien de Getúlio Vargas. Voilà
qui a été le président historique, deux fois président du Brésil.
Le président historique, symbole du populisme. Sachant qu'évidemment, entre les deux périodes, il y a des divergences absolument manifestes, que Bolsonaro est un néolibéral affiché, un pro-américain affiché, ce qui n'était pas le cas de Vargas, et avec une composante nouvelle au Brésil qui est très importante, qui est la montée des évangélistes, qui évidemment est un paramètre tout à fait nouveau et qui là peut faire penser aux États-Unis. De ce point de vue, un parallèle Bolsonaro-Trump est intéressant. Alors, oui.
Justement, parce que alors Donald Trump est présenté comme un populiste, on le classe même comme étant le premier dirigeant populiste au monde. Inutile de dire qu'il est néolibéral. Est-ce que dans ces conditions, vous le classeriez quand même parmi les populistes, Olivier?
Alors, là aussi, je suis désolé d'être l'historien un petit peu empêcheur de tourner en rond, mais on oublie parfois qu'il a existé un populisme américain. Il a existé un populisme américain au 19e siècle. Ce populisme américain, quel était-il? Ce populisme américain était un populisme essentiellement agraire, paysan, et il s'agissait pour ces populismes américains de défendre effectivement ces paysans contre la menace d'un pouvoir puissant. Et à l'ère d'aujourd'hui, un penseur comme Christopher Lash, par exemple, ou toute une partie de la gauche américaine a repris, ou avait repris, puisque Lash est mort depuis quelques années, on le sait bien, mais avait repris à son compte cet héritage. Trump, effectivement, n'a rien à voir avec cet héritage-là. En revanche, effectivement, il a une façon de se comporter, un rapport même aux institutions, au pouvoir, à son propre parti, le Parti Républicain, qui évidemment l'éloigne des canaux, des standards traditionnels.
Et puis il a un point commun avec les autres populistes que vous étudiez dans le dictionnaire des populismes, c'est l'anti-intellectualisme. Et ça, c'est un phénomène américain, pas uniquement américain évidemment, mais il a été examiné aux États-Unis et on considère que c'est un trait important pour les populistes, l'anti-intellectualisme.
Oui, mais alors, pour le coup, dans le cas d'un Orban, si vous voulez, je pense qu'Orban est infiniment plus profond qu'un Trump. Si vous voulez, je crois qu'effectivement, il y a une posture par rapport effectivement à un certain nombre d'élites. Hein. Il y a dans ce populisme un point commun qui me paraît important, c'est un anti-libéralisme. Mais alors là encore, il faut s'entendre sur évidemment ce qu'on va appeler le libéralisme, mais le libéralisme à l'anglo-saxonne, ce libéralisme sociétal, cette idée qu'au fond, la démocratie est en train, avec une démocratie des droits, de défaire le tissu social. Et là, de ce point de vue, si on passe d'un dirigeant à l'autre, on va trouver effectivement un certain nombre de points communs entre l'Europe et les Amériques. Ça, c'est absolument certain.
Et puis alors, prenons le cas français, parce voilà. qu'on ne va quand même pas y échapper, Olivier Dard. Finalement, je l'ai dit tout à l'heure, il y a dans votre livre, tout d'abord, des remarques pour expliquer que le populisme ne se laisse pas aisément définir et que finalement, la plupart du temps où on le définit comme étant une sorte de maladie de la démocratie, témoignant des faiblesses cognitives de ceux qui se disent pour le populisme, ce qui est bien entendu une manière extrêmement condescendante de voir les électeurs et qui ne se révèle pas pertinente pour examiner le phénomène. En revanche, il y a une entrée progressisme et je me suis demandé si finalement la meilleure manière de définir le populisme n'était pas tout simplement l'opposition au progressisme.
Je serais assez d'accord avec vous. En ajoutant un autre élément, c'est qu'effectivement, bon, avant de faire ce dictionnaire des populismes, on avait fait un dictionnaire du conservatisme. Bon, et effectivement, alors cette opposition d'ailleurs populisme-conservatisme ou conservateur-progressiste, elle a été mise en avant, en particulier par le président de la République. Et effectivement, le progressisme entendu, alors il faut évidemment s'entendre là aussi sur ce qu'on appelle le progressisme, c'est-à-dire au fond la définition contemporaine qu'on en donne, parce que si on parle du progressisme des années 60, on est évidemment très éloigné de ce qu'on appelle le progressisme aujourd'hui. Mais le progressisme tel qu'on l'entend aujourd'hui, à travers ce que j'évoquais il y a quelques instants sur la question de la démocratie des droits, est un élément effectivement tout à fait important. À travers en particulier le discours multiculturaliste, etc., on est à front renversé par rapport effectivement à la société qu'entendent construire les populistes.
Et alors, je lis l'entrée, non pas l'entrée progressisme, mais l'entrée macronisme,
de Pierre-André Taguieff.
Qui est encore signé par Taguieff. On peut formuler l'hypothèse générale, écrit Taguieff, que s'opère depuis la fin du XXe siècle une sortie de la religion du progrès, une sortie paradoxale du progressisme à travers ses métamorphoses mêmes. Et finalement, Taguieff d'expliquer que le macronisme est l'une des métamorphoses du progressisme.
Oui, c'est ce que pense Taguieff.
Alors, dans ces conditions, Macron a raison de considérer, si j'en suis votre dictionnaire, Olivier Dard, qu'il est effectivement aujourd'hui l'alternative au populisme.
C'est de toute façon ce qu'il entend mettre en avant. Et c'est, je crois que tout le monde l'a compris, c'est ce qu'il attend pour 2022. Je crois qu'il n'y a pas besoin d'être un grand clerc en politique pour voir qu'il attend de nouveau un face-à-face avec Marine Le Pen, en espérant évidemment de l'emporter. Mais de ce point de vue, effectivement, le projet macroniste est au rebours même à la fois du conservatisme et du populisme. Le conservatisme et le populisme, d'ailleurs, ou les populismes n'étant pas la même chose. Mais ce qu'il est important de noter chez effectivement Emmanuel Macron et dans le macronisme, c'est la reprise en compte par eux de tous ces éléments, effectivement, que l'on peut tirer du libéralisme à l'américaine, sachant que le libéralisme à l'américaine, évidemment, n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'on avait pu appeler en France le libéralisme ou le néolibéralisme de gens comme Raymond Aron et autres.
Mais alors, dans ces conditions, est-ce que le progressisme, parce que l'article de Pierre-André Taguieff, de vous à moi, est plutôt moqueur, j'ai l'impression qu'il ne croit pas en l'existence de quelque chose qui pourrait relever du progressisme, et encore moins du macronisme, finalement, est-ce que ce travail n'est pas en train de retourner la question? Vous dites finalement qu'on se moque des populistes, et vous finissez par vous moquer en quelque sorte des progressistes. Taguieff, enfin, j'imagine que vous ne vous désolidarisez pas de cette entrée, et par conséquent, vous considérez finalement que la pensée la plus naïve, la plus candide, c'est ce progressisme qui finalement considère...
Oui, mais simplement, je ne pense pas que le progressisme se résume au livre dont parle effectivement Pierre-André Taguieff, qui est le livre rédigé par Ismaélien, etc. C'est-à-dire qu'en fait, je précise pour nos
auditeurs... Autrement dit, des conseillers d'Emmanuel Macron...
Voilà, l'entrée l'entrée de Pierre-André Taguieff fait une analyse extrêmement précise, nourrie au scalpel, j'ai presque envie de dire, de ce livre. Je n'enfermerai pas l'ensemble du progressisme, évidemment, dans cet ouvrage.
Non, bien entendu, mais ce que l'on voit, ce qui est visé par un autre néologisme extrêmement caricatural, ou en tout cas qui se veut évidemment méchant, c'est le vocable de progressophile qu'utilise Pierre-André Taguieff au sujet de ce progressisme et de ces macronistes-là. Toute une série de choses que l'on peut apporter à l'appui du progressisme, par exemple le fait de préserver l'universel, de préserver l'universel et la raison, ce qui est finalement l'une des meilleures manières de retisser le lien entre les individus, alors que les populistes ne se situent pas du côté de l'universel et encore moins du côté de la raison.
Olivier Dard. Alors j'ajouterais que si on mettait les conservateurs dans l'affaire, pour le coup, la riposte ou l'argument que pourraient pour le coup opposer les conservateurs à ce discours progressophile comme l'écrit Taguieff, c'est la question de la limite.
C'est-à-dire
le fait qu'on a l'impression, effectivement, à travers cette question du progrès, si vous voulez, qu'on est parti dans une évolution sans la moindre limite, avec un individualisme, évidemment, qui est directement mis en avant, le droit à, et on retombe, évidemment, sur cette question de la démocratie des droits, et ce qui fait une forme de jonction, même si elle n'est pas exprimée de la même façon entre populisme et conservatisme, c'est évidemment cette remise en cause d'un individualisme posé comme un axiome incontournable et l'idée d'une démocratie des droits. Ça me paraît tout à fait important.
C'est la raison pour laquelle finalement, ce qui est visé par ce populisme, c'est le libéralisme en tant qu'il est dissolvant, en tant qu'il ne considère finalement qu'il n'y a que des individus. C'est ça en fait.
Il n'y a que des individus et qu'il y a un primat de l'économie.
Et alors en quoi
et qu'il n'y a pas de protection.
Et alors en quoi cela est haïssable pour le populisme, Olivier Dard?
Parce que le populisme veut lui au contraire intégrer ou rassembler alors le peuple et jouer effectivement constamment le peuple, alors d'ailleurs, contre les élites ou contre l'élite. C'est là où on retombe sur un débat évidemment de fond. Mais si on a un point commun, si vous voulez, entre ces populistes dits de droite et ces populistes dits de gauche, c'est bien dans cette opposition-là, qui d'ailleurs historiquement n'a évidemment rien de nouveau. Simplement, ce peuple, il va être construit de façon très différente. Tout à l'heure, j'expliquais que, effectivement, pour un populisme plutôt marqué à droite, ce qui va compter, c'est la question de l'ethnos. Mais dans un populisme dit de gauche, on parle de la France, disons un mot peut-être de la France insoumise, par exemple. Alors, où en est exactement la France insoumise, je ne sais plus exactement, mais il y a un auteur, puisqu'on parlait de l'Amérique latine, qui est très important, ou qui a été très important pour eux, c'est Ernest Laclau.
Alors, il faut présenter qui était...
Alors, Ernest Laclau est un philosophe argentin, il est décédé aujourd'hui.
En 2014.
Voilà, le mari de Chantal Mouffe. Il avait en particulier écrit un certain nombre de livres, notamment La raison populiste, et toute l'idée, si vous voulez, de Laclau, pour faire très simple, il y a deux choses. Laclau était en Argentine membre du parti socialiste national, ce qui évidemment aujourd'hui, comme hier en Europe, peut paraître curieux. Alors ce parti n'était pas péroniste, enfin n'était pas si éloigné que ça du péronisme dans les années 70. Autre élément important, Laclau a théorisé ce qui est devenu, je dirais, par extension à la France insoumise, la question de la convergence des luttes. C'est-à-dire, au fond, essayer de réunir le peuple autour d'un certain nombre de causes et de faire bloc. Il y a, dans le discours de Laclau, si vous voulez, et dans son rapport au peuple, une dimension constructiviste qui, évidemment, n'existe absolument pas chez des populistes de droite qui considèrent que le peuple préexiste à travers l'ethnos.
Mais alors, c'est ce qui est frappant dans ce dictionnaire, c'est que finalement, l'origine de la défense du peuple, alors elle peut passer par Charles Maurras, un auteur qui vous est cher, et vous avez signé d'ailleurs la notice alors là, qui lui est consacrée.
Oui, tout à fait.
Qui est donc une notice qui présente l'œuvre de Maurras. Moi, je regrette à chaque fois qu'il n'y ait pas le mot antisémitisme qui soit collé à Maurras. Mais, bien entendu, vous expliquez que Maurras se dresse contre les juifs, les francs-maçons, les métèques, et les protestants,
les quatre États confédérés.
Est-ce qu'il n'y a pas, justement, une manière de considérer que, finalement, en France, la forme dominante du populisme, c'est le maurrasisme et le néo-maurrasisme, Olivier Dard?
Alors, Très franchement, non. Pourquoi ? Parce que, et c'est ce que j'ai justement essayé de construire dans ma réflexion sur Maurrasisme et populisme. Je me suis d'ailleurs demandé si on faisait une entrée Maurras ou pas. En réalité, non. Pourquoi ? Parce que le projet maurrassien est un projet profondément élitiste. Maurras n'a jamais compris la question des masses, n'a jamais cherché à toucher les masses, à la différence des populistes, qui, eux, s'intéressent aux masses. D'abord, Maurras a cherché à refaire une élite qui soit susceptible d'exercer le pouvoir. Et je dirais que Maurras a infiniment plus sa place, si vous voulez, dans un dictionnaire du conservatisme ou du traditionalisme, que dans un dictionnaire des populismes. Sauf que, et c'est là où, bon, connaissant quand même assez bien l'itinéraire du personnage, j'ai quand même fait une entrée à cause, justement, de la référence qu'il propose à Vargas. Il est très intéressant de voir que Maurras s'intéresse au cas Vargas et non pas pour dire spécialement du bien de Vargas, parce qu'en réalité...
Donc, toujours au cas brésilien, je rappelle que cet homme a été deux fois président du Brésil. C'est lui le grand révolutionnaire brésilien.
Voilà, mais non pas pour encenser Vargas, dont il a, à mon avis, très peu étudié le régime, mais pour dénoncer, là ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, la question du libéralisme. C'est-à-dire que s'il y a un point que Maurras partage avec les populistes, évidemment, c'est cette dénonciation du libéralisme. Ajoutons aussi qu'il peut partager, à travers effectivement la question de l'antisémitisme en particulier, l'exécration d'un certain nombre d'ennemis communs. C'est un élément important. Mais, encore une fois, le projet, c'est d'abord un projet élitiste.
Mais est-ce que justement, et c'est ça la spécificité de la France, parce qu'après tout, il n'y a pas que le Brésil, il y a des spécificités, la France aussi en a, est-ce qu'on ne pourrait pas considérer que le populisme français, il a aussi une filiation évidente avec la tradition contre-révolutionnaire, avec Bonald, avec Demestre, avec des penseurs de droite, alors bon... de droite, c'est un peu anachronique pour qualifier Demestre, mais en tout cas avec ceux qui se situent contre la Révolution française, ce qui du coup pose problème pour penser la France insoumise, Olivier Dard.
Non, alors je pense que si vous voulez, je dirais plutôt, et c'est pour ça que j'ai rédigé une entrée ligue, que la filiation que l'on peut tirer, elle relève davantage du lien avec les années 1880, l'épisode boulangiste, la montée des lignes nationalistes, c'est-à-dire plus et bien davantage Barrès que Maurras sur ce plan-là, et tout l'héritage ligueur de la Ligue des Patriotes, des Jeunesses Patriotes, etc. D'où le lien que je fais avec l'entrée Jean-Marie Le Pen, je suis désolé de me citer, mais c'est moi qui l'ai rédigé, en faisant de Jean-Marie Le Pen le dernier des ligueurs. Et quand j'ai rédigé cette entrée, j'ignorais, je le dis franchement, qu'il allait appeler son deuxième tome « Tribun du peuple ». Et de ce point de vue, il y a un héritage extrêmement intéressant à souligner.
Alors, Tribun du peuple, c'est intéressant parce que l'une des dernières dimensions qu'on pourrait explorer sur le populisme, c'est le rapport au corps et au corps du leader, Olivier Dard.
Absolument. Alors là, je renvoie à l'entrée de notre collègue Didier Musilla, qui est extrêmement intéressante sur le sujet, parce que le dirigeant populiste... Alors, le dirigeant populiste, ou la dirigeante populiste, hein, encore une fois, n'est pas le seul ou la seule à mettre en avant la question du corps. Mais il n'en demeure pas moins que c'est extrêmement important. Et le corps, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie d'abord le rapport à la foule et la mise en scène du personnage dans la foule avec le rôle de l'image. Dès l'entre-deux-guerres, c'est très frappant. La question du rapport à la voix. La voix du leader qu'on entend à la radio et le port, hein, le port de tête que peut avoir ce leader, sa façon de parler, de réunir, etc. Il y a des entrées de grêle, etc. L'habillement, l'entrée sur Haider est extrêmement intéressante. Haider impose...
Il faut rappeler qui était...
Voilà, Haider était l'ancien patron du FPO autrichien. Haider, qui a parfaitement compris les codes communicationnels, impose un code vestimentaire qui est le sien. Et donc, je crois qu'effectivement...
Extrêmement policé, voilà, très...
Et aujourd'hui, on a Salvini qui joue et qui surjoue effectivement le rôle de la virilité. Donc, il y a voilà, effectivement...
Avec un corps, cette fois-ci, relâché...
Après, non, mais ça se décline de façon différente, effectivement, selon les dirigeants, mais c'est extrêmement... je suis tout à fait d'accord là-dessus, c'est extrêmement important.
Mais alors, du coup, on l'a avec Jean-Marie Le Pen. Qu'est-ce qui va se passer pour ses successeurs ?
Ça, je ne sais pas.
Parce que ce rapport au corps, il est de plus en plus difficile à assumer en France. Il y avait un côté tribun qui paraît aujourd'hui peut-être des œufs, mais c'est peut-être mon sentiment, pas le vôtre, Olivier Dard.
Oui, non, mais c'est vrai que l'art oratoire a complètement évolué, que les grands meetings, parce que bon, on parle de Jean-Marie Le Pen, mais effectivement, de ce point de vue-là, il a été le dernier à être un orateur. Et je dirais, il y a pas de lien entre eux, mais François Mitterrand aussi était un orateur de la 4e République. Hein, et si vous revoyez les images de François Mitterrand en train de parler, là aussi, il y a un travail sur le corps, la façon de se tenir, etc., qui était extrêmement, extrêmement intéressant. Aujourd'hui, ça passe par autre chose. Aujourd'hui, ça passe par les réseaux sociaux, la mise en scène de son image, etc., etc. On n'est plus, et là, c'est peut-être une différence marquante avec le populisme historique, on n'est plus à l'heure des grands rassemblements de masse. C'est-à-dire, ce dont on parle quand on parle du péronisme, quand on parle de Vargas, quand on parle de tous ces gens-là, c'est la capacité de ces gens à organiser des manifestations de centaines de milliers de personnes avec, effectivement, la figure du meeting. Les gens venaient aux réunions publiques, aujourd'hui, ils sont chez eux et ils commentent les réseaux sociaux.
C'est alors, justement, je me disais qu'il y avait un penseur antipopuliste qui, cependant, défendait le peuple. C'était Orwell, parce que oui. Dans 1984, il y a le salut, dit-il, par les prolos, absolument. Alors même qu'il pourfend le populisme et la figure de Big Brother dans 1984.
Je suis d'ailleurs pas sûr que Big Brother soit vraiment un populiste, c'est un dictateur totalitaire. Mais effectivement, il y a chez Orwell quelque chose de très important, qui est ce qu'il appelle la common decency, la décence commune. Et effectivement, il y a dans le populisme. Alors, on n'a pas parlé des aspects littéraires du populisme, mais c'est très important aussi, ou du cinéma. Hein. C'est la défense du peuple, hein, d'une célébration d'un peuple qui serait l'incarnation d'une pureté, quand évidemment, ceux d'en dessus ne le seraient pas.
En tout cas, c'est la preuve qu'entre les progressophiles et les populistes, il y a Orwell, ce qui donne au moins un salut pour les démocrates. Olivier Dard, votre dictionnaire des populismes, publié aux éditions du Cerf, en compagnie de Christophe Boutin et Frédéric Rouvillois, et donc d'une multitude de contributeurs.